bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le gouvernement congolais a officiellement déclaré vendredi 15 mai la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones de santé des Rwampara, Mongwalou et Bunia dans la province de l'Ituri. À ces jours, plus de 350 cas suspects ont déjà été enregistrés avec 91 décès probables, a indiqué le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba ce dimanche 17 mai devant la presse à Bunia en Ituri. Selon lui, 59 malades d'Ebola sont actuellement pris en charge dans différentes structures sanitaires de Bunia et de Mongwalou, considérées comme les principaux épicentres de cette épidémie. Ce même dimanche, les autorités sanitaires ont confirmé la détection du premier cas d'Ebola dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies CDC Africa, il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre la souche Bundibugyo, responsable de cette 17e épidémie dans le pays. Toutefois, l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, se veut rassurant et appelle à ne pas céder à la panique. Le ministre de la Santé publique, pour sa part, appelle par conséquent la population à rester vigilante, à signaler tout cas suspect et à éviter les contacts physiques avec les malades ou les personnes décédées. Un numéro vert est disponible pour toute information utile. Quelle analyse faire de l'organisation de la riposte contre cette 17e épidémie d'Ebola en RDC? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous allons recevoir, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre, c'est le docteur Dieudonné Mwamba, il est directeur général de l'Institut National de Santé Publique, INSP en sigle. En ligne, docteur qui passe à Nice, il est expert en santé publique, il est ancien vice-président du comité scientifique de lutte contre Ebola qui quitte en 1996. Bonsoir docteur Anissé qui passe.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Et aussi en ligne, Dieudonné Lossa, il est coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Bonsoir, monsieur Dieudonné Lossa.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
En Ituri, les autorités sanitaires ainsi que plusieurs partenaires de santé sont mobilisés depuis la semaine dernière pour contenir l'épidémie d'Ebola déclarée dans la province. Malgré les efforts déjà engagés dans les différents foyers de la maladie, les défis restent importants pour parvenir à maîtriser cette épidémie. Nous allons en parler avec Isaac Remoyope qui s'entretient ici avec Benjamin Moudoumbi.
Bonsoir Isaac Remo.
Bonsoir Benjamin Moudoumbi.
Isaac, quelles sont les principales mesures des ripostes mises en place dans les différents foyers de cette maladie, notamment à Bunia, Rwampara et Mongwalou?
Il faut dire qu'on observe depuis la semaine dernière une forte mobilisation des autorités sanitaires, notamment les chefs des divisions provinciales de la santé, les médecins chefs des zones, ainsi que les responsables des structures sanitaires et les partenaires de santé. Cette mobilisation a notamment permis l'identification de la maladie, officiellement déclarée samedi dernier par le ministre national de la Santé. Depuis, plusieurs réunions de coordination se multiplient avec l'implication du gouverneur de province afin de renforcer la riposte contre cette épidémie. Cette dynamique a été suivie par l'arrivée dimanche à Bunia du ministre national de la Santé, précédée de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a acheminé 5 tonnes de matériel de prévention ainsi que des infrastructures destinées à la construction des centres de traitement Ebola sur 3 sites à Bunia, à Rwampara, à la périphérie de la ville, ainsi qu'à Mongwalou, situé à environ 80 km au nord de Bunia, dans les territoires de Djoubou. Environ 40 experts et professionnels de santé ont également été déployés pour appuyer les équipes locales.
Cela étant, Isaac, quels sont aujourd'hui les principaux défis pour contenir cette épidémie à Bunia et à Mongwalou, considérés à ce jour comme les épicentres de la maladie?
Le principal défi reste l'identification de toutes les personnes contactées. Il faut rappeler que depuis plus d'un mois, des rumeurs circulaient déjà sur plusieurs décès enregistrés à Mongwalou et à Bunia. Mais ces décès étaient souvent attribués à des phénomènes mystiques avant que l'origine réelle de la maladie ne soit confirmée. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes ayant été en contact avec les malades, manipulé les corps ou participé aux enterrements des cas probables restent cachés dans la communauté. Seules les personnes qui commencent à présenter des symptômes ou des maladies malaise se rendent progressivement dans les structures sanitaires où elles sont détectées. Et cette situation augmente justement les risques de propagation de la maladie.
Et quelle est l'attitude générale de la population après la déclaration officielle faite par les ministres de la Santé?
Il faut dire, Benjamin, que la majorité de la population reste encore sceptique ou indifférente. Beaucoup de personnes continuent leurs activités normalement sans respecter les mesures de prévention telles que les ports du cache-nez, les lavages des mains ou la distanciation physique. Dans les véhicules de transport, les voyageurs restent serrés les uns contre les autres. Les mouvements des populations sur les différents axes se poursuivent sans véritable contrôle sanitaire. Et dans plusieurs lieux publics, marchés, églises, écoles, sites de déplacés ou encore à la prison centrale, les moyens de prévention sont souvent absents, insuffisants ou inadaptés. Autant de défis qui risquent de favoriser la propagation de cette épidémie. Il faut également signaler les manques et parfois même les refus de communication de certaines autorités sanitaires en Ituri. Et cette situation laisse place aux rumeurs et à la désinformation autour de l'épidémie d'Ebola. Les acteurs de la société civile estiment donc qu'il est urgent d'intensifier les campagnes de sensibilisation afin de favoriser une véritable prise de conscience au sein de la population.
Merci Isaac Raymond.
Merci Benjamin Mudumbi et nous remercions tous les auditeurs.
Merci à vous Isaac Raymond Yopé et Benjamin Mudumbi. Docteur Dédoné Mwamba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Voilà, vous venez de faire votre entrée dans ces studios. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut national de santé publique INSP en sigle. Et comment s'organise la riposte contre cette 17e épidémie d'Ebola en RDC?
Merci, monsieur Guy. Je m'excuse un peu pour le retard. Alors, par rapport à la riposte en RDC, face à cette 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, j'aimerais rappeler que c'est au niveau de l'Institut national de santé publique, qui est un établissement public en charge de la prévention, la préparation et la réponse aux épidémies et aux urgences sanitaires de santé publique. Donc à ce titre, nous avons au niveau de l'INSP, le Centre des opérations d'urgence de santé publique, que nous appelons le CUSP, qui est vraiment le bras armé de l'INSP pour la réponse aux épidémies. Donc,
une sorte de task force.
Oui, c'est une force, une sorte de task force, mais au sein vraiment de l'Institut national de santé publique, et qui est vraiment chargé, donc ce Centre des opérations d'urgence, le bras armé, pour la préparation et la réponse aux épidémies. Donc, nous travaillons avec toutes les autres structures, que ce soit du ministère et même les autres structures en dehors du ministère, qui nous apportent leur appui pour faire face aux épidémies et aux autres urgences sanitaires. Donc, pour cette épidémie qui nous concerne, la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, comme nous venons de le faire pour la 16e épidémie de Boulapé, donc, nous avons mis un dispositif qui est en place, avec au niveau du système de gestion de l'incident, donc de cette épidémie. Et en urgence, nous avons déployé déjà des équipes qui sont au niveau de Bounia, donc qui constituent pour l'instant le grand carrefour vers les zones de santé qui sont touchées. Donc nous avons un coordonnateur de cette riposte qui est là, avec des équipes d'appui. Et nous sommes en train, comme je le dis, de structurer le système de gestion de l'incident, parce que la nouvelle façon de gérer les épidémies maintenant, c'est comme dans le système de l'armée. Donc nous avons un incident manager qui est comme le général qui va au front, et avec lui ses lieutenants. Donc c'est cette équipe qui est déjà déployée, qui est au moment où nous parlons déjà au niveau de Bounia. L'équipe est arrivée depuis le week-end dernier, et qui est en train vraiment de se restructurer, de s'organiser pour travailler au niveau des piliers. Donc nous aurons des piliers qui vont se mettre en place, le pilier surveillance, le pilier prise en charge, le pilier communication, le pilier laboratoire, le pilier prévention, contrôle des infections, et tous ces piliers vont être coordonnés par le coordonnateur et l'incident manager, de telle sorte que la réponse puisse être efficace, et nous travaillons avec les équipes provinciale.
Voilà, et beaucoup de questions, n'est-ce pas, au sujet de cette souche qu'on appelle les Bundibugyo. Docteur, il est dit que cette souche n'a ni vaccin ni traitement spécifique. Et donc, on peut comprendre par là que le traitement qui est fait jusque-là, c'est un traitement symptomatique. Jusqu'à quel niveau ce traitement symptomatique peut être efficace?
Oui, le traitement, il est efficace parce que je préfère déjà vous rappeler que on a eu les épidémies antérieures. Ce n'est pas la première épidémie que nous avons avec la souche Bundibugyo. Nous l'avons eu encore en 2012 et en 2012, nous n'avions pas de médicaments ni de vaccins. Donc, nous avons donné, et c'est ce que nous allons faire encore, c'est un traitement symptomatique par rapport aux signes que les malades présentent et c'est juste vouloir restaurer les fonctions du malade pour que lui-même, avec son immunité, il va essayer de combattre ce virus. Donc, quand il y a les signes, par exemple, la fièvre apparaît, donc nous allons donner des médicaments contre la fièvre, contre la diarrhée, les vomissements, et le malade lui-même va constituer son immunité pour combattre ce virus. Et dès que nous essayons de restaurer cette immunité, les malades arrivent à faire face à ce virus et à survivre.
Et donc, cela veut dire que plus tôt on va intervenir, plus on aura la possibilité, n'est-ce pas, de vaincre la maladie.
Justement, c'est pourquoi nous insistons que les malades qui présentent les symptômes compatibles à la maladie à virus Ebola, de se présenter effectivement le plus tôt possible au niveau des centres de santé, parce que là, on va identifier les symptômes et les orienter vers le centre de prise en charge. Et plus tôt ils arrivent, plus tôt ils ont la chance de guérir aussi.
Voilà, dans les reportages qu'on venait de suivre ici de notre collègue, de nos collègues, n'est-ce pas, Isaac Remoyope et Benjamin Mudumbi, il a été dit que parmi les défis dans cette lutte, dans cette riposte, il y a cette identification des personnes contactées. Comment vous faites pour essayer d'identifier les personnes contactées? Parce qu'il est dit que c'est depuis les mois d'avril qu'on a commencé à constater les premiers cas, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore intervention à ce moment-là, et on ne sait pas identifier le cas zéro. Comment vous faites pour essayer de retracer jusqu'à remonter au cas zéro?
Oui, donc nous avons justement, c'est nos équipes de terrain qui font la surveillance active et passive. Donc la surveillance active, c'est que nous rentrons dans la communauté, nous identifions déjà les cas qui ont été les cas suspects, donc ceux qui ont présenté les signes. Nous essayons de lister toutes les personnes dont nous leur posons la question pour qu'ils nous disent toutes les personnes qui ont été en contact avec ces cas suspects.
Et les gens coopèrent, hein?
Ils acceptent de coopérer. Vraiment, nous les sensibilisons pour montrer vraiment le bien fondé de cette démarche, parce que quand vous voulez faire toute intervention, il faut expliquer, que la population comprenne quel est le bien fondé de cette démarche. Et quand nous expliquons, nous arrivons à les convaincre. Donc, ils nous donnent les noms des personnes qui ont été en contact avec eux. Ils nous essaient de poser les questions pour retracer leur trajet, s'ils se sont déplacés d'un lieu à un autre, pour dire ils ont pris quels moyens, ils étaient avec qui. Donc, nous essaient de prendre tous ces noms-là. Et nous allons maintenant essayer de suivre ces personnes pour les voir, les visiter et nous rendre compte est-ce que ces personnes présentent des symptômes ou pas. Et nous faisons ce suivi pendant 21 jours. Parce que les 21 jours, c'est la période d'incubation de la maladie.
Voilà.
Donc après ce suivi de 21 jours, si la personne contact n'a pas présenté, ne présente pas de symptômes, donc il est déjà au-delà de la période d'incubation, donc nous nous rassurons que c'est une personne qui ne va plus présenter les signes et nous sortons ces personnes de la liste de suivi des contacts.
Et quels sont les autres défis qu'il faut relever, n'est-ce pas, pour combattre efficacement cette maladie, à part l'identification des contacts, des personnes contactées?
Bon, l'autre défi, parce que c'est, vous savez, cette région-là, c'est une région au niveau de la province de l'Itourie, il y a beaucoup de populations, nous avons des populations qui sont déplacées, donc c'est une population dense et il y a un grand mouvement de population. C'est ça le défi, parce que les gens se déplacent beaucoup pour plusieurs activités, ils se déplacent beaucoup, donc ça donne le défi de les suivre justement, et c'est pourquoi nous sensibilisons pour que les gens puissent rester vraiment dans leur pendant cette période, parce que la période, comme c'est dans une région, il y a la maladie, donc nous demandons plus aux populations de rester le plus possible dans leur milieu, d'éviter des déplacements, si je peux dire, qui n'ont pas beaucoup d'importance pour ce moment. Ça permet de ne pas aussi aller attraper la maladie parce qu'on se déplace à gauche, à droite, et ça permet aux équipes de riposte de mieux suivre les personnes contacts.
Voilà, un cas a été déclaré positif dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Comment vous arrivez à gérer une telle situation quand on sait que la ville de Goma n'est pas contrôlée par, est occupée par la rébellion? Comment vous arrivez à gérer cela?
Bon, là, c'est, y a les humanitaires, déjà, qui ont des accès plus faciles dans ces régions-là. Et nous pensons que c'est plus à travers les humanitaires qui travaillent déjà avec nous aussi pour cette riposte, qui pourront aussi aller apporter un appui de l'autre côté.
Merci. Docteur Anissé Kipassa, vous êtes expert en santé publique, vous êtes ancien vice-président du comité scientifique des luttes contre Ebola à Kikwit en 1996. Et comment d'abord vous avez réagi lorsque vous avez appris que la RDC venait de connaître une nouvelle épidémie d'Ebola, la 17e?
Merci Guy, merci au docteur Mwamba, que j'ai très bien suivi. Félicitations surtout pour l'organisation. Et quand vous me posez la question, en tant que vétéran d'une des grandes, des plus grandes campagnes de riposte contre Ebola, chaque fois que j'entends quelque chose qui arrive comme ça dans notre pays, j'ai la paix. J'ai la paix sur le plan scientifique, la paix dans l'âme. Je voudrais dire ceci, que notre pays, depuis l'épidémie de 1995, je ne peux pas avoir peur. Les experts, vous avez vu quand il y a eu l'épidémie en Afrique de l'Ouest, ceux qui sont allés régler, gérer ces problèmes sont venus de notre pays. Donc le premier sentiment, je me dis, voilà, en tant que citoyen congolais, en tant que Congolais, ça me fait mal, mais je n'ai pas peur. Je me dis, l'équipe qui est sur place, c'est une équipe très bien rodée qui va gérer parfaitement l'incident. Et je suis sûr que dans quelques semaines, où le problème sera réglé. Mais à l'époque, et d'ailleurs, je vais le dire tout à l'heure là, quand Dr Mwamba parlait des piliers surveillance communication, j'insisterai sur ça. Et surtout, j'ai apprécié ce que Dr Mwamba dit, ce que nous avions dit il y a 30 ans, que la gestion actuelle, que ce soit pour les pandémies, c'est exactement comme une guerre traditionnelle, comme dans l'armée. Le plus important, c'est la coordination. Aujourd'hui, j'apprends que Bounia, Goma, je me dis, ça sera réglé parce que d'abord, la première chose, Guy, c'est regarder le temps de la riposte. Il y a 30 ans, la maladie nous avait surpris. Mais aujourd'hui, avec les systèmes de surveillance épidémiologique établis par les ministères de la Santé, avec tous les systèmes dans les zones de santé, notre système de riposte est devenu très sensible. Notre système de surveillance épidémiologique plutôt est devenu très sensible. Moindre cas, on est déjà sensibilisé et l'information remonte et la riposte se prépare.
Alors, docteur, lorsque cette épidémie a été déclarée vendredi, les bilans étaient de plus de 250 cas suspects, si je ne m'abuse, et plus de 80 morts. Que répondez-vous à ceux qui disent que le gouvernement congolais est intervenu avec retard?
Ben, je ne crois pas retard par rapport à quoi? Parce que j'ai parlé de la promptitude. J'ai regardé les données que j'ai vues sur mon...
Docteur Anissé Kipassa, vous avez activé les modes main libre. Essayez de parler normalement. Désactiver ces modes-là comme ça.
Oui, je vais enlever ça.
Voilà, allez-y.
Oui, je disais, dès que j'ai vu les données que j'ai vues hier ou avant-hier, où la plupart ce sont des cas suspects, mais des cas confirmés, il y en avait. Peu par rapport au cas réellement confirmé. Je me dis, la maladie était là. Mais les données épidémiologiques de base à travers ces zones de santé montraient quand même qu'il y avait une situation anormale dans ces zones de santé-là. C'est vrai, la riposte telle qu'organisée, moi je ne pense pas qu'elle est tardive, mais je crois qu'ils ont agi, je pense sincèrement, honnêtement, que rapidement, dès que les ministères de la Santé étaient avertis, d'ailleurs, le premier ou les gens qui sont allés sur le terrain, il y a les ministres lui-même, Guy, il faudra que les gens le sachent, même le ministre, quand il descend là-bas, il est à haut risque. Hein. À Kikwit, nous avons eu à peu près 84 de personnel infirmier avec 65 décès. Même le ministre, en descendant là-bas, il est à risque avec toute son équipe. Mais il a bravé, il y a la bravoure, ils sont tendus sur le terrain. Donc, le moment n'est pas à commencer à dire est-ce qu'on a agi tard, mais on a agi. On a agi, on est là.
Voilà, l'essentiel c'est d'avoir agi. Et à votre avis, quelle devrait être l'attitude de la population face à un tel danger, à une telle menace?
Merci Guy. Je dis et je le redis toujours. Ebola, Covid, tout ce que nous connaissons actuellement par expérience de Kikwit, ce sont des maladies avec une composante psychosociale très importante. Et c'est vous dire, aujourd'hui nous sommes à Bunia. Mais regardez la proximité de Bunia avec Kinshasa, vous pouvez dire que c'est loin. Non, sur le plan épidémiologique, c'est pas très loin. Hein, parce qu'avec un vol sur Kinshasa, un seul cas descendrait à Kinshasa, Kinshasa serait dans la panique. Un seul cas. Je ne sais pas comment les gens vivent à Goma, mais c'est la panique. Donc, Ebola est une maladie avec une composante psychosociale très importante. Et il appartient à nos équipes. J'ai entendu Dr Mwamba parler du pilier communication. Et l'OMS a très bien parlé de ça. Ils ont parlé de l'infodémie. La rumeur...
Allô, docteur, qui passe là?
Communauté
vous disiez
exactement de l'information.
Vous
la résilience de la communauté peut être une résilience négative ou positive. Elle dépend de l'information qu'elle a. Isaac a dit que le comportement des gens, actuellement je dirais, c'est un comportement à risque. Les gens continuent à vaquer dans leurs habitudes. Je ne sais pas s'ils continuent à manipuler les malades. Alors que tout ça a été très bien défini par le pilier communication pour le changement de comportement et pour le comportement à risque surtout. Donc, je me dis, dans les jours qui viennent, la population, et puis d'ailleurs, Dr Mwamba l'a dit, on va faire non seulement la surveillance épidémiologique traditionnelle, active, passive, mais surtout... Le succès dans cette lutte, dans cette riposte, c'est la surveillance épidémiologique à base communautaire. Vous lui avez demandé, les gens qui sont sur le terrain, mais c'est la riposte avec la population. C'est pas la riposte pour nous seuls, les professionnels de santé. Et on va réussir. Le comportement tout au début, c'est tout à fait normal. Il y a des phénomènes de rejet, il y a des gens qui ne croient pas. Mais au fur et à mesure qu'on avance avec la communication pour les changements de comportement ou les changements pour les comportements à risque, vous allez voir les premiers qui vont aller dénoncer les cas suspects, ça sera les relais communautaires, les gens dans la communauté.
Merci Dieudonné Lossa, vous êtes coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Quand vous voyez comment est organisée la riposte, quelle est l'analyse, n'est-ce pas, que vous faites de cette riposte qui est faite sur le terrain, vous de la société civile?
Effectivement, pour nous, c'était un sujet de joie parce que j'ai remarqué quelque part que l'intervention est venue avec un petit léger retard, vous l'avez dit, parce que c'est au moins plus de deux semaines après qu'on ait connaître des cas de mort à répétition, presque des symptômes, pas des symptômes qui se ressemblent, que la décision finalement ou la confirmation de Ebola est intervenue. À ce moment, il y a une équipe vraiment d'intervention à la tête aussi le ministre national de santé. Nous pensons que c'était bon début, mais ce qui reste maintenant là, c'est de chercher à identifier tous les cas contacts des personnes qui sont décédées. Il y a aussi besoin d'une forte campagne de sensibilisation parce que tout le monde ne peut pas comprendre de la même manière l'ampleur de cette maladie.
Ok. Alors, quel doit être l'apport de vous, société civile, n'est-ce pas, dans la sensibilisation de la population?
Nous le faisons déjà depuis la confirmation d'Ebola en Ituri. Nous le faisons de nous-mêmes, nous le faisons par nos propres efforts, à travers nos membres, c'est-à-dire les églises, les écoles. On le fait déjà, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de points, là où se trouvent beaucoup de populations concentrées, il fallait qu'il y ait des dispositifs sanitaires pour empêcher, n'est-ce pas, la propagation, notamment dans des parkings. Et souvent, quand on parle de parking, les gens voient les parkings des véhicules. Alors qu'à nos jours, il y a aussi beaucoup de parkings pour les motos. Il y a pour les avions, pour l'aéroport, quand même, on peut dire que ça évolue. Pour les frontières, ça passe d'accord, mais dans le marché, dans de différents centres de concentration, où il y a beaucoup de concentration, il n'y a pas assez de dispositifs. C'est comme ça que nous voulons vraiment interpeller les autorités à prendre des dispositions urgentes et surtout que le ministre est sur le terrain. Qu'un mécanisme qui doit contenir la propagation de cette maladie soit mis en place.
Voilà. Est-ce que toutes les populations en Ituri sont accessibles? Parce qu'en Ituri, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de camps de déplacés. Est-ce que même ces populations qui sont dans ces différents camps de déplacés, on accède à ces populations-là pour la sensibilisation et pour intervenir en cas, n'est-ce pas, de cas confirmés?
D'une manière coordonnée, il n'y en a pas encore. Je pense que l'équipe même qui est sur le terrain est en train de faire des planifications, je suppose, parce que on n'a pas encore vu des professionnels de santé peut-être déployés ou les acteurs déployés pour aller dans des centres où il y a de grandes concentrations, notamment les sites de déplacés, parce que à ville de Bounia, on a au moins 2-3 grands sites de déplacés qui nécessitent vraiment une attention particulière du gouvernement parce que par moindre erreur, si on arrivait à trouver des cas dans ces sites, on peut regretter.
Merci docteur Dieudonné Mwamba. Que répondez-vous aussi à ceux-là qui pensent que le gouvernement est intervenu en retard?
Non, je ne pense pas que le gouvernement soit intervenu en retard. Dès qu'on a eu la première alerte du décès de l'infirmier autour de fin avril, nos équipes étaient déjà à pied d'œuvre. On a eu les premiers prélèvements.
C'était dans quelle localité?
Déjà au niveau de
Bounia.
Parce que le malade, quand il y a eu des déplacements vers de Mongualou vers Bounia. Et c'est là où on a eu l'infirmier du centre médical évangélique,
ça, c'est le cas zéro.
Que nous supposons être, parce que nous devons continuer à faire des investigations pour être sûr vraiment que c'est celui-là.
Vous savez où il est actuellement?
Non, c'est l'infirmier, il est décédé.
Ah, c'est un monsieur. Ah,
oui, c'est un infirmier qui est,
il est déjà décédé.
Qui est décédé. Alors, c'est ça qui a donné l'alerte. On a fait fin avril, on a fait des prélèvements et qui sont arrivés. Il fallait que ça soit acheminés. Déjà sur place à Bounia, ils ont fait les testings parce que vous savez qu'à Bounia, il y a un laboratoire provincial où ils ont les réactifs et ils ont recherché Ebola. Et là, c'était négatif à Ebola Zaïre. Mais on a demandé, comme il y avait cette symptomatologie et des signes hémorragiques, on a demandé que l'échantillon puisse être ramené à Kinshasa. Donc les échantillons sont arrivés à Kinshasa autour du 8 mai. Et à Kinshasa, on a dû approfondir au niveau de l'INRB pour dire, bon, si ce n'était pas Ebola Zaïre, est-ce qu'on peut rechercher d'autres germes? Et c'est ainsi qu'on a continué à faire ces analyses, à rechercher d'autres germes. Et là, c'est au niveau de... Après, autour du... Les échantillons sont arrivés autour du 13 à l'INRB et ils se sont mis directement à travailler. Et c'est au 14... qu'on a eu déjà la confirmation que c'est pas la souche Zaïre, mais c'est la souche Bundibudio. Et le même 14 en soirée, il y a eu la déclaration faite par son Excellence Monsieur le Ministre, et le 15, le samedi, il y a eu un point de presse.
Alors, est-ce
donc,
qu'on peut...
le système a été assez réactif pour capter cette alerte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, dans la communauté, les gens ont pensé que c'était une maladie mystique. Parce que les gens ne fréquentaient pas, ils sont pas allés au niveau des structures de soins. On a pensé que c'était un phénomène mystique au niveau de la zone de santé de Mongualou. Il y a eu des gens qui sont allés dans des prières, il y a eu des rassemblements de prières. Et c'est tout ça qui a fait que le système de santé, parce que ça c'était dans la communauté. Mais dès qu'au niveau du système de santé, on a eu les premiers alertes, ça a été capté directement. Dont l'infirmier qui est décédé, on a vu que c'était des signes compatibles avec une fièvre hémorragique.
Alors, la souche Bundibugyo, est-ce que c'est la souche la plus virulente?
Non,
il y a la souche Zaïre et toutes les autres souches, mais est-ce que cette souche-là, parce que comme aujourd'hui, elle n'a pas de vaccins, elle n'a pas de traitements spécifiques, mais est-ce qu'au-delà, on peut dire aussi que c'est une souche... virulente par rapport aux autres souches?
Non, la souche Bundibugyo, ce n'est pas la souche la plus virulente. Par rapport au filoviridé, au virus Ebola, c'est la souche Ebola Zaïre, celle que nous connaissons la plus dans notre pays. C'est la souche Ebola Zaïre qui est la plus virulente avec plus de 80% de mortalité, de taux de mortalité. Donc, alors que la souche Bundibugyo, c'est moins de 50%, même autour de 40% de mortalité. Donc, c'est pas la souche la plus virulente.
Docteur Kipasa, vous avez eu, n'est-ce pas, à gérer ces épidémies-là, et je crois que vous faisiez beaucoup plus face à la souche Zaïre, et à l'époque, on n'avait pas les conditions qu'on a aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait ni vaccin, ni traitement par rapport à cette souche-là. Comment vous aviez procédé pour arriver, n'est-ce pas, à vaincre la maladie?
Merci, Guy. Merci au confrère Mwamba qui a bien cerné le problème. Ebola Zaïre est resté stable dans notre pays. On l'a vu dans les Kasaï et il a causé beaucoup de dégâts. Et à cette époque-là, effectivement, il y a 30 ans, nous n'avions pas tout le moyen dont nous disposons aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est pourquoi c'est la fierté du médecin congolais. Le flair clinique et le flair épidémiologique. Je voudrais dire ceci. Tout à l'heure là, Dr Mwamba a dit quelque chose qui est important. Devant tout incident anormal dans la communauté, il y a d'abord la résilience. Tout à fait normal, la résilience de la population. Dès qu'ils ont vu un phénomène anormal, chez nous c'était les Landa-Landa il y a 30 ans. Dès qu'ils ont vu ça, c'est tout à fait normal, la population a ce qu'on appelle la résilience, mais une résilience parfois négative par manque d'information. Et cela a été aggravé par ce que l'OMS a appelé l'infodémie. Dites-vous bien qu'en ce moment, il n'y a pas que l'équipe du docteur Mwamba, l'OMS et les gens qui sont sur le terrain. Mais il y a aussi les tradis praticiens. Il y a aussi les gens qui profitent de ces circonstances pour dire, venez, je vais vous imposer les mains, vous allez guérir, ce n'est pas l'histoire des médecins. Donc nous avons pas à les combattre, mais à chercher à les intégrer dans la surveillance épidémiologique à base communautaire. J'ai dit ceci. Nous avions eu une très bonne coordination avec les comités international scientifique avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Mais le mérite revient surtout à ces équipes-là, la surveillance épidémiologique, parce que l'objectif premier, c'est d'arrêter la circulation du virus dans toutes ces zones-là. Et vous avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on va faire la mobilisation plus loin. S'il y a des radios communautaires, c'est déjà quelque chose de bien, parce que dès que ces sites où il y a beaucoup de gens, ils identifient leur cause à ce qui se passe actuellement, n'importe qui vient d'une zone reconnue à haut risque, la population va le rejeter et va le regarder et va le surveiller. Mais dès qu'ils ont la définition communautaire de la maladie hémorragique à virus d'Ebola, la définition communautaire, vous allez voir, les gens vont être le premier à communiquer avec le bureau. Nous, à notre époque, c'était le bureau des rumeurs. Mais c'est dans la surveillance épidémiologique passive, c'est qu'on nous a porté. La surveillance épidémiologique active, on avait envoyé des étudiants de l'UNIKIC, aujourd'hui UNIKIC, UB à l'époque, ils sont allés dans chaque parcelle où il y avait une information à propos d'un cas suspect. Donc je me dis, à cette époque-là, exactement aujourd'hui, il y a eu de perfectionnement, des choses qu'on a essayé d'embellir, mais nous avions fait exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait un incident manager, mais que nous n'avons pas appelé incident manager. À cette époque-là, il y avait le président du comité scientifique avec tout ce que nous mettons aujourd'hui comme piliers qui étaient des structures d'appui. Regardez, il a parlé de la surveillance, il a parlé de la communication, de labo, du PCI, il y a aussi les volets sociaux, mais surtout, merci à l'OMS qui a dépêché déjà beaucoup de matériel, la logistique est capitale. C'est exactement comme dans l'armée, une guerre traditionnelle. S'il n'y a pas une bonne logistique, vous allez échouer. Et nous avons eu un taux de létalité important, mais comme l'a dit le docteur, aujourd'hui, ils sont déjà sur le terrain. Bon, je suis sûr qu'on aura un taux de létalité moindre par rapport à ce que nous avions eu à Kikwit ou ce qu'on a eu en Afrique de l'Ouest.
Merci. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train d'appeler, hein, nombreux pour poser leurs questions au sujet, n'est-ce pas, de ces thèmes. Dieudonné Lossa, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kolozi dans les Lualaba, c'est Patrick Mbouli.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolozi dans la province du Lualaba. La 17e épidémie d'Ebola en RDC constitue un nouveau test pour le système sanitaire national. L'expérience acquise lors des précédentes épidémies peut permettre une riposte plus rapide et mieux coordonnée. Cependant, la propagation des cas entre Ituri et Goma augmente les risques sanitaires à grande échelle. L'absence de vaccins spécifiques contre cette souche complique davantage la prise en charge médicale. La sensibilisation communautaire devient donc essentielle pour limiter les contaminations et éviter la panique. Les autorités doivent renforcer les capacités des structures sanitaires et la surveillance épidémiologique. La lutte contre les rumeurs et la désinformation sera également déterminante dans cette riposte. Cette crise rappelle enfin l'importance d'investir durablement dans les systèmes de santé en RDC.
Dieudonné Lossa, votre réaction?
Effectivement, la population a le droit d'avoir peur. Parce que jamais, on a vu des gens qui sont morts, et là, c'est la suite à Ebola. Déjà, ont raison, parce que Ituri d'abord nous tombe dans une zone où la sécurité a déjà fait tirer beaucoup de gens. Et maintenant, avec l'Ebola, ça complique davantage les choses. Donc, c'est à ce niveau que la peur se justifie. Mais nous avons dit que la propagation est réelle, parce que la période qui a séparé le premier décès avec la date de confirmation des cas d'Ebola, c'est quand même quelques jours, c'est un nombre important de jours. Donc avec ça, on peut avoir beaucoup de personnes, contacts, qu'on ne sait pas identifier tout de suite. C'est pour cela que se justifie également une intensification des sensibilités. Surtout cela sous une bonne coordination.
Merci, docteur Dieudonné Mwamba. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. C'est Michael Baembe.
Michael Bahimbe de Kumbandaka dans la province de l'Équateur. J'ai bien suivi le docteur Mouyembe qui affirme que l'épidémie du virus Ebola sévit actuellement en RDC est une souche nouvelle qu'on ne connaissait pas avant. Il ne s'agit pas de souche Zaïre, il ne s'agit pas non plus du virus Ebola forêt de taille. Très rare chez l'humain, l'actuelle souche est digne de qualité inférieure à la souche Zaïre. C'est le virus Zaïre à un traitement et un vaccin, découvert par lui-même le professeur Mouyembe. À ce jour, 91 personnes sont mortes de cette épidémie. J'ai quelques questions à poser à nos autorités sanitaires. Nous qui avons été vaccinés par les vaccins d'Ebola, sommes-nous aussi exposés? Nous devrions attendre d'autres doses pour se protéger contre. La dernière question, quelles sont des mesures prises par nos autorités sanitaires pour éviter la propagation?
Docteur Dieudonné Mwamba.
Oui, merci Monsieur Michael. En fait, vous avez rappelé, vous avez suivi...
Il a été vacciné.
Que vous avez été...
Par rapport au vaccin d'Ebola, Ebola Zaïre, je crois.
Oui. Zaïre, oui. Alors, ce que j'aimerais dire à Monsieur Michael, c'est que ces deux souches différentes, vous l'avez dit, vous avez rappelé le professeur Mouyembe, ce qu'il a dit effectivement. Le vaccin, vous l'avez reçu à l'Équateur, c'était le vaccin contre la souche Zaïre, Ebola Zaïre, donc pour lequel nous avons un vaccin. Mais la souche pour cette actuelle épidémie, la 17e, c'est la souche, comme je l'ai dit, Bundibugyo. C'est la deuxième fois qu'on l'a en RDC. Nous avons eu pour la première fois en 2012 et la deuxième fois, c'est maintenant en 2026. Donc, c'est une souche pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup de recherches pour arriver jusqu'à un vaccin et à des molécules. Ce qui fait que ceux qui ont, les personnes comme M. Michael, qui ont été vaccinés contre, qui ont reçu le vaccin contre Ebola, et c'est le vaccin qu'ils ont reçu, c'est Ebola, la souche Zaïre. Donc, ils ne sont pas, en principe, immunisés contre
cette souche
qui circule maintenant au niveau de l'Ituri, donc la souche Bundibugyo. Donc, c'est pourquoi nous en appelons toujours à cette sensibilisation, au respect des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Parce que c'est pas parce que vous avez reçu le vaccin contre Ebola, parce que le vaccin qui a été donné, nous le disons, c'est le vaccin contre la souche Zaïre, et qui ne protège pas contre la nouvelle souche qui est en circulation maintenant. Donc, les personnes sont toujours exposées, les personnes qui ont reçu ce vaccin. Donc, c'est pourquoi les mesures préconisées, c'est vraiment observer, comme je le disais, observer les mesures de précaution. Donc, les gestes barrières, c'est quoi? Comme dans la province de l'Équateur, je dis, donc il faut... Les mesures d'hygiène que nous connaissons, c'est laver régulièrement les mains à l'eau au savon. C'est ceux qui vivent dans les régions forestières, c'est éviter d'entrer en contact avec les animaux dans la forêt, surtout ramasser les animaux trouvés morts ou les dépiécer. C'est aussi bien cuire les aliments, les viandes que nous mangeons, c'est vraiment bien les cuire pour être sûr que c'est des viandes qui ont été bien cuites et que ne pas exposer au virus. Et s'éviter, surtout en cette période, dans la zone en épidémie, de se serrer les mains parce que c'est une maladie aussi qui se transmet par le contact direct avec les personnes qui sont déjà des cas suspects. Donc,
Les manipulations des dépouilles mortelles
lors de décès. Donc, et même les malades, quand vous avez quelqu'un qui présente ces symptômes, c'est éviter de les toucher, c'est éviter de manipuler même ses vêtements, la sueur, parce que même toutes les humeurs peuvent contaminer, parce que le virus se trouve aussi dans toutes les liquides biologiques.
Merci, docteur Alice Kipassa. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au Sud-Kivu, Maître Ulimwengu.
Maître Ulimwengu Kitungano Joseph, j'interviens depuis la ville de Bukavu. La maladie à virus Ebola est très dangereuse comme d'autres virus. En RDC, il s'avère que les modes de prévention de cette maladie ne sont pas vraiment efficaces. Il est mieux que le ministère de la Santé publique puisse collaborer avec l'OMS et d'autres structures sanitaires afin de barrer la route à ce fléau qui vient de ressusciter. Il est aussi important de ne pas ignorer la médecine traditionnelle fondée à base des plantes qui peut, tant soit peu, apporter la solution. Celle de la médecine moderne ne suffit pas, d'autant plus que les tradis praticiens font des découvertes, bien qu'ils soient ignorés par la médecine moderne. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, il est important que tout le monde collabore avec la participation de la population pour mettre fin à ces virus.
Docteur Anissé Kipassa, vous allez réagir, n'est-ce pas, à la réflexion de l'auditeur, mais aussi vous allez donner votre mot de la fin, hein, par rapport à la sensibilisation de la population. Allez-y, passons seulement à la fin de l'émission.
Merci, Maître Olimwengo. J'ai compris, il reconnaît que la maladie est très dangereuse et il dit que pour la prévention, il faudra une très bonne collaboration du ministère de la Santé publique et Hygiène avec les partenaires, notamment l'OMS, les CDC, et les autres, et il dit de ne pas ignorer la participation de la médecine traditionnelle. Je pense que il y a pas beaucoup de choses à redire là-dessus, mais ce que nous demandons, c'est que quand il y a, comme l'a dit l'alerte, comme l'a dit docteur Diédonné tout à l'heure, dès qu'il y a l'alerte, on a besoin de la participation de tout le monde, de façon coordonnée. Si on prend les gens de façon isolée, les tradis praticiens les prennent de façon isolée, en arguant ce que nous venons faire, le virus va continuer à circuler dans la population parce que la médecine traditionnelle n'agit que sur le plan curatif. Or, l'aspect à ne pas oublier dans cette riposte, c'est la surveillance épidémiologique et on a besoin de la médecine traditionnelle, surtout dans ce sens. Je terminerai en paraphrasant le docteur Diédonné en disant ceci. Voilà ce que nous avons utilisé à l'époque, les 5 règles d'or, et pour répondre aussi à Olimwengo, les 5 règles d'or comme les 5 doigts de la main, la première des choses, même s'il n'y a pas encore de vaccin pour cette souche, ne cédez pas à la panique, ne vous fiez pas aux rumeurs. L'OMS a parlé d'infodémie, j'ai dit, ne cédez pas à la panique, ne vous fiez pas aux rumeurs. Suivez et appliquez de façon stricte les règles et les recommandations des autorités politiques administratives, des professionnels de santé, des médecins et des agents de la santé. Deuxième règle d'or, l'hygiène, le docteur Diédonné l'a dit, évitez les embrassades, les accolades dans cette période, lavez régulièrement les mains au savon ou au cendre et utilisez la solution hydroalcoolique. 3. Évitez de manipuler, il a dit, toucher, dépiécer, desséquer les viandes, les gibiers trouvés morts dans la forêt. Mais si vous le préparez, faites une bonne cuisson pour éviter cela. 4. Éviter tout contact non protégé avec les humeurs corporelles. Il a parlé du sang, des urines, des vomiques, la sueur, les larmes, même les larmes, les selles et même les mariés. Attention au sperme. Ça peut contenir aussi le virus. Prévenir les centres de santé, les dispensaires les plus proches. Donc c'est ça la surveillance épidémiologique à base communautaire. Dès qu'il y a un cas suspect. Éviter de manipuler les effets personnels des gens, des cas suspects qui étaient malades. Ou, à la rigueur, brûlez-le. Le cinquième, les derniers, en cas de convalescence, parce que même là, il y aura des convalescents. Évitez les contacts sexuels pendant quelques mois ou quelques semaines. Ou alors, si c'est vraiment important, utiliser les préservatifs et tout ça. Mais pour nous, l'équipe des premières lignes de front, les victimes, les plus grandes victimes sont parfois nous, les professionnels de santé. Donc, s'il y a une très bonne collaboration avec nos équipes qui sont dans les centres de santé, dans les hôpitaux, je dirais ceci, le ministre de la Santé est là, ensemble, la population et nous, nous allons vaincre Ebola.
Merci. Merci, docteur Anissé Kipassa. Monsieur Diédonné Lossa, votre mot de la fin. On a plus assez de temps.
Nous pensons qu'il est important qu'on mette en place un mécanisme de sensibilisation, une forte sensibilisation bien coordonnée et aussi prendre des dispositions particulières pour les sites des déplacés où il y a une forte concentration de populations déjà vulnérables. Donc je crois qu'avec ça, on peut arriver à faire quelque chose, mais aussi ne pas négliger les différents coins où on peut retrouver les gens dans des véhicules, on peut retrouver les gens autour de parking, qu'on ne minimise pas cela parce que c'est aussi des points qui sont susceptibles de favoriser la propagation.
Merci, merci docteur Dieudonné Mwamba. On est à la fin de l'émission. Un message à l'endroit de la population pour la sensibiliser davantage, n'est-ce pas, à faire face à cette nouvelle épidémie.
Oui, je l'ai dit, pour la population, c'est vraiment les mesures de prévention. Vraiment, la maladie, on la connaît. Nous avons l'expertise pour faire face à cette maladie. Au niveau de l'Institut national de santé publique, nous avons déployé nos équipes qui sont déjà à pied d'œuvre sur le terrain et qui vont travailler aux côtés des communautés avec les populations pour leur apporter vraiment l'assistance et les interventions nécessaires. Mais ce que nous demandons à la population, c'est d'adhérer. Il faut déjà collaborer avec les équipes de riposte qui sont sur terrain et adhérer aux mesures, notamment que je rappelle, c'est éviter de toucher les animaux qui sont morts, de les dépiécer, c'est se laver régulièrement les mains, parce que c'est un virus qui est très fragile. Dès que vous lavez les mains au savon, à la cendre, à un gel hydroalcoolique, c'est un virus qui est très fragile et qui meurt. C'est éviter de manipuler les cadavres ou les habits des malades. C'est éviter des rassemblements aussi pendant cette période dans la zone en épidémie. C'est des grands rassemblements, tout cela c'est à éviter. Et aussi, dès que vous avez des symptômes, vous avez des signes, la fièvre, céphalée, des vomissements, des diarrhées, c'est mieux d'aller rapidement au centre de santé le plus proche parce que là, ils vont vous examiner et vous envoyer au centre de traitement Ebola le plus proche possible.
Merci. C'est par là que nous mettons fin, n'est-ce pas, à cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Docteur Dieudonné Mwamba, merci d'avoir fait des déplacements jusque dans nos studios. Docteur qui passe à Nice, Monsieur Dieudonné Lossa, merci à vous tous, n'est-ce pas, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission et aussi à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à Dieudonné Nyangasa et André Mongou qui étaient à la technique, et Tchembe Eloku qui a assuré les lives de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.